Mercredi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Emmanuel Mariani sur Peur FM.
Dessus de table, l'émission qui met les pieds dans le plat. Bonjour, bienvenue, bon appétit si vous nous écoutez en mangeant. Bonjour Emmanuel Mariani.
Bonjour Philippe.
Je suis très alléché, j'ai entendu des mots là qui me... Je me lèche les babines ce matin.
Ah oui, c'est votre truc ça. Hein.
Ouais, complètement. On va parler de la cuisine bourgeoise, Manu, avec nos invités.
Absolument. Alors nos invités, Alain Dutournier tout d'abord. Alors deux chefs propriétaires, hein, parce que dans la cuisine bourgeoise, on est souvent chef propriétaire. Hein, contrairement à d'autres restaurants qui sont adossés à des grands groupes, on va dire. Les gens qui descendent de la cuisine bourgeoise sont des artisans. Alors Alain Dutournier, le Carré des Feuillants, 14 rue de Castiglione, au Trou Gascon, rue Taine, les Caves de Marly aussi à Port-Marly. Alain Dutournier, c'est un des plus grands chefs français, des grands spécialistes de la cuisine bourgeoise, qui a été étoilé, je crois, sans interruption pendant 42 ans, depuis 77, Alain, c'est ça ? Hein, alors on va en parler un petit peu dans l'émission. Hein, Alain a eu quelques soucis avec le guide Michelin, emporté par son jeunisme, hein, comme Paul Bocuse, à titre posthume.
Vous êtes un traditionnaliste, Manu. Vous êtes contre le changement. Vous voulez que ça change pas.
Je suis pas contre le changement. Je suis contre les mauvais changements. Et puis, il y a Thomas Boutin aussi qui est également avec nous, chef propriétaire également, le restaurant Le Vieux Crapaud, rue Lauriston, dans le 16e, qui est aussi l'un des dignes représentants de la cuisine bourgeoise et traditionnelle. Hein. De toute façon, ça se sent un peu dans le nom du restaurant, Le Vieux Crapaud. Hein. On imagine qu'on y mange des cuisses de grenouilles. Et des grenouilles entières, absolument. Pourquoi que les cuisses, hein. Oui, c'est ce que vous m'aviez dit un jour. Pourquoi ne manger que les cuisses? Et effectivement, c'est également une adresse où on mange de la vraie cuisine traditionnelle et qu'on appelle aussi parfois bourgeoise.
D'accord. Donc, chef propriétaire, si je vous ai bien compris, Manu, c'est une expression consacrée.
Chef patron, on dit souvent chef patron aussi. Ouais.
Si je peux juste rajouter
Alain Dutournier.
J'aime bien le mot indépendant.
Oui, voilà. Ou artisan. Je parlais d'artisan aussi.
Artisan indépendant.
Ouais. Bon, alors on parle de cuisine bourgeoise, Manu, mais de quoi parle-t-on exactement quand on emploie cette expression bourgeoise?
Alors, la cuisine bourgeoise, beaucoup de gens pensent que c'est parce que c'est la cuisine des familles bourgeoises. Alors, c'est peut-être un petit peu vrai, mais bon, pas tout à fait. C'est beaucoup plus subtil que ça. Alors, si on parle de la cuisine des mamas, hein, dans des pays latins ou des dadas au Maroc, hein, en France, la cuisine bourgeoise, c'est la cuisine des mères. Parce que si aujourd'hui, le métier de cuisine est majoritairement masculin, autrefois, ce sont surtout des femmes qui cuisinaient dans les auberges. On les appelait les mères. Il y a eu pas mal de mères célèbres. Il y en a eu énormément, Philippe.
Oui, d'ailleurs, cette émission l'a fait justement pour rendre hommage à Paul Bocuse d'une certaine façon, qui a été formé par une mère, lui.
Absolument, absolument. Il a commencé chez la mère Brasier. Et puis, donc, il y avait aussi la mère Poulard, etc. Alors, quel rapport avec le terme bourgeois? Parce que c'était des restaurants qui étaient plutôt populaires. Il y a plusieurs, après on demandera à nos invités ce qu'ils en pensent eux, parce qu'il y a plusieurs écoles, hein, il y a plusieurs chapelles. Selon moi, l'origine, elle est on ne peut plus populaire, parce qu'autrefois, on parlait pas de village ou de commune, mais on parlait de bourg. Et ces mamas à la française qui tenaient les fourneaux de ces auberges aux quatre coins de la France créaient souvent des recettes dont la réputation dépassait souvent le simple cadre local et rayonnait dans toute la région. Et ces recettes devenaient l'emblème de leur bourg d'origine. Et selon moi, c'est de là que vient le terme de cuisine bourgeoise.
La cuisine
d'un bourg qui a rayonné au-delà du bourg. Voilà.
Bourgeois n'a rien de prétentieux.
Absolument.
Étant donné que même à Bordeaux, les crus bourgeois, ce sont des crus qui ne sont pas des grands crus.
Oui, des petits
mais
crus.
Qui sont très très bien choisis parce qu'ils ont un très beau terroir. Et donc tout ce qui est bourgeois en cuisine et en vin, c'est quelque chose de tout à fait raisonnable et populaire.
Honorable, mais pas bling bling.
Voilà. Oui. Alors, donc, on le voit, Manu, ça n'a rien à voir avec la bourgeoisie telle qu'on l'entend.
Ah, pour moi, non, mais bon, il y a une autre thèse que je trouve qui pourrait être pertinente également, c'est que ces maires qui tenaient ces auberges rurales ou parfois citadines, hein, parce qu'il y a la mère à l'art aussi, hein, on a eu la mère à l'art à Paris, le restaurant existe toujours d'ailleurs, ouais, hein, chez Allard, c'était souvent d'anciennes cuisinières de familles bourgeoises, donc elles auraient pu un peu garder ce qualificatif une fois à la tête de leur restaurant, et puis c'est une cuisine dans laquelle on est souvent très généreux sur le beurre, la crème, etc., donc on peut également y voir un clin d'œil aux ingrédients souvent très riches en calories cette fois-ci, mais qui étaient assez largement utilisés dans ces recettes.
Bon, alors, qui sont les plus célèbres de ces mères, Manu ?
Bah, écoutez, il y en a pas mal, je vais pas toutes les citer, mais bon, bah, par exemple, je parlais justement de Marthe Allard, là, à l'instant, la mère Allard, qui est, bon, le restaurant existe toujours, hein, depuis 1932. Il y a Marie-Louise Maury aussi, alias la mère Maury, à Romans-sur-Isère, là, carrément, depuis 1885. Il y a la mère Brasier, il y a la mère Blanc, alors aujourd'hui, Georges Blanc, 3 étoiles Michelin, qui est à la tête du restaurant, avec le célèbre plat de la Maison Blanc, qui est le poulet à la crème, hein,
Venatienne.
Et les crêpes venatiennes aussi. Il y a beaucoup. Alors il y a beaucoup de mères effectivement dans la région lyonnaise.
Venatienne, c'est,
hein,
donc la crêpe venatienne.
Bah, c'est la Maison Blanc à Venas. Donc ouais, c'est les.
D'accord.
Voilà, c'est une crêpe fourrée salée. Hein,
je crois qu'il y a de la pomme de terre, de la chair de pomme de terre dedans, et c'est des petits palets qui sont délicieux et qui sont de la tradition.
Ouais, c'est très traditionnel, mais c'est très gastronomique et très moderne à la fois. Il y a moins connu, il y a la mère Bisolon, mais j'aime bien parce qu'on l'appelait la maman des poilus, hein, parce qu'elle nourrissait, elle était pas loin de la ligne de front et nourrissait beaucoup de poilus pendant la Première Guerre. Il y a la mère Quinton aussi, Marie Quinton, qu'on appelait la belle meunière. Alors elle est allée dans plusieurs bourgs, hein. Elle a commencé à Royat en Auvergne, elle est passée par Paris, puis elle a fini à Nice. Il y avait la guerre Gagnevin aussi, qui au début du 19e siècle, alors elle aussi à Royat en Auvergne, elle c'était la cantine de tous les grands peintres romantiques de la vallée de Royat au 19e siècle. Voilà, il y avait aussi la mère Bourgeois, la bien nommée, hein, puisqu'on parle de cuisine bourgeoise. La mère Filloux, hein, qui est à l'origine de la poularde en demi-deuil, hein, avec des petites lamelles de truffe pour faire un joli damier sur la poularde. Et puis, puisqu'on parle de poularde, il y a la mère Poulard, hein, avec sa fameuse omelette au Mont-Saint-Michel. Bah oui. Et puis, voilà, on peut parler de la mère Charles, la Mionnet aussi. Voilà.
Moitié œuf, moitié lard.
Oui, moitié.
Et beaucoup d'air aussi.
Oui, oui, beaucoup d'air.
Et d'énergie.
Oui, parce qu'il faut bien la fouetter quand même.
C'est des blancs d'œufs montés en neige. Hein, c'est...
Voilà, auxquels on ajoute les jaunes après, et ça donne effectivement une espèce de crêpe un peu soufflée, très aérienne.
Et il existe toujours le restaurant historique d'ailleurs, de la mère Poulard
Oui, alors il a changé un peu depuis, hein, parce que quand on regarde les photos d'époque et l'auberge d'aujourd'hui, bon, ça s'est un petit peu modernisé, tant mieux d'ailleurs, hein, parce qu'il y a un certain confort, c'est devenu une adresse un peu qui est vue comme étant un peu chic, mais il y a quand même ce charme suranné que je trouve absolument pas négatif, moi, chez la mère Poulard. Et on y mange toujours assez bien. Bon, c'est devenu quand même un haut lieu du tourisme, mais bon.
Est-ce qu'on mange toujours bien chez la mère Poulard ?
Ouais, non, je vois Mathieu.
J'ai pas vu une moue d'approbation là.
Non, mais moi, j'ai aucune prétention de rien, mais c'est vrai que j'y suis allé deux fois et franchement, c'est devenu vraiment un truc à tourisme, je pense, aujourd'hui.
Non, hein. C'est un truc à tourisme, c'est-à-dire qu'il faut y aller pour y goûter l'omelette qui est toujours faite à peu près correctement.
C'est très cher, je trouve.
Ah, ça oui.
Et les produits qui accompagnent l'omelette, quand on demandait, je sais pas, une omelette au homard ou quoi, de toute façon, c'est toujours la même chose, ils vous mettent le homard d'un côté et l'omelette. Mais c'est pas une omelette mixée.
C'est pas travaillé, ouais.
Et puis c'est pas forcé. Enfin voilà, c'est mon point de vue qui n'engage que moi.
Oui, bah, vous êtes là pour ça.
C'est une institution qui demanderait à être reprise en main.
Sûrement.
Bon, alors, la cuisine bourgeoise, comment est-ce qu'on la définit ? Quel est le plat emblématique de la cuisine bourgeoise, Manu ?
Il n'y a pas de plat de cuisine bourgeoise emblématique. Il y en a autant qu'il y a de cuisiniers ou de cuisinières. Là, on parlait des mères. Hein.
Je pense quand même que le plat, parce que là, on va remonter à Henri IV.
La poule au pot.
Moi, je pense que le plat emblématique, c'est le pot-au-feu, la poule au pot, quoi.
Oui, parce que la poule, comme le dit Alain Dutournier, la poule au pot, c'est un pot-au-feu. Sauf que selon les régions, le nom différait. Alors poté, pot-au-feu, poule au pot. En fait, le principe, c'est un bouillon, des légumes et une viande. Voilà. Et donc la recette diffère selon les.
Et c'était les régions. Plat du dimanche chez les gens qui sortaient quand même de périodes où il y a eu de la famine.
De disette, oui.
Oui, c'est difficile. Donc à cette époque-là, l'agriculture est réformée. Et Henri IV apporte cette faculté de pouvoir dire tous les Français, le dimanche, ils pourront manger l'histoire d'un pot-au-feu, quoi, d'une poule, la poule au pot. Quoi.
Oui, c'est l'époque où on mangeait de la viande une fois par semaine, finalement.
Oui, mais c'est pas très loin. Moi, je suis né à la campagne. On mangeait, les gens mangeaient dans les fermes et tout, du veau ou du bœuf quand ils vendaient un veau ou qu'ils vendaient un bœuf. Donc, ils fêtaient ça. Mais sinon, ils mangeaient très modestement beaucoup de légumes, beaucoup de potage, beaucoup de soupe, avec des petits morceaux de viande dedans, des petits trucs. Mais on se goinfrait pas de protéines animales. Hein.
Oui, c'est comme les bouillons. Les bouillons du 19e siècle qu'on mangeait dans les bouillons à Paris, justement, où on ne mangeait pas de viande. Hein. C'était des os qu'on faisait bouillir, et on avait fait une émission là-dessus, Philippe.
Quand on commençait les confits d'oie, on mangeait une grande cocotte de petits pois, parce qu'on entame les confits pour qu'ils soient bien maturés à la période des petits pois, au mois de juin, et les paysans mangeaient des cocottes de petits pois avec une aile d'oie pour quatre mecs, ou comme ça, qui avaient labouré depuis le matin.
Heureusement que ce n'était pas une aile de caille.
Maintenant, on veut servir, vous avez vu le scandale, c'est pour moi, quand on va manger une choucroute, si elle est bonne, ce qui est rare, mais ça peut arriver parce que c'est exceptionnel, moi je trouve que c'est un grand plat, mais quand vous mangez une choucroute, vous n'avez pas besoin par personne d'avoir un jarret de porc, 4-5 sortes de saucisses, du Kessler, enfin toutes les viandes, il y a à bouffer pour une famille, pour une personne.
C'est vrai que c'est récent, le fait de manger comme ça, autant de viande, c'est récent.
Oui, il y a eu une surconsommation dans les années 80. Ça a commencé pendant les 30 Glorieuses. On a tellement manqué de viande pendant la guerre, pendant les 30 Glorieuses, il y a eu une surconsommation de viande. Et c'est pour ça qu'on a fait beaucoup d'élevage extensif, au détriment de la qualité de la viande.
Et la réussite, c'était de dire alors là, on s'est payé une côte de bœuf d'un kilo à deux, quoi. C'était une gloire pour nous, on mange.
Oui, c'est ça, on a de quoi manger. Ouais.
Alors qu'il vaudrait mieux que la côte de bœuf d'un kilo ou d'un kilo deux serve à quatre personnes et qu'elle soit faite à partir de bœuf naturel, de qualité.
De race, d'élevage, et français, etc. Ouais. Et français.
Et français, ouais. Qui plus est.
Cocorico de Thomas Boutin.
Ouais, alors moi, surtout, je pense aussi que c'est surtout une cuisine, enfin, pour moi, hein, c'est une cuisine de partage, c'est une cuisine de convivialité. C'est toujours des gros plats qu'on met au milieu de la table. Chacun se sert où on se sert, c'est festif. Avec ça, on boit des bons vins. Et c'est surtout ça qui est très intéressant. Et c'est vrai quand même la générosité, parce qu'à l'époque, effectivement, on ne mangeait pas toujours de la viande. Et là, c'était vraiment la grosse fête. Et c'était comme ce que j'aime au restaurant ou chez les gens, c'est on se retrouve autour d'un plat et pour passer vraiment un très bon moment et chaleureux.
Voilà, et puis on parle de convivialité, Philippe, puis on parlait aussi des plats, en préparant l'émission, on parlait des plats qu'on posait au milieu de la table, comme ça, etc.
Parce qu'on servait le plat.
Voilà, à l'époque...
Et de partage, voilà. Parce que la maman, parce qu'il faut revenir toujours là, la maman qui fait à manger avec un poulet, elle pouvait faire plaisir à tous ses enfants, l'un c'était la cuisse, l'autre c'est l'entrecuisse, l'autre c'est l'aile, et tout le monde de trouver son bonheur en partageant. Et maintenant, on achète les cuisses de poulet comme des sucettes dans des boîtes, dans les supermarchés.
Oui, les petits pilons qui ressemblent à des sucettes,
ont été élevés en boîte aussi, d'ailleurs.
Je trouve ça complètement ridicule, et je pense qu'il faut revenir aux vraies valeurs pour respecter un peu les... Si on mange une volaille, on enlève la vie à une volaille, je pense qu'il faudrait la respecter et pas la gaspiller. Et je trouve que c'est malheureux, j'en ai parlé plusieurs fois, notamment au Sénat, on me dit oui, c'est une très bonne idée, mais ils n'en ont rien à faire.
Ils ne font rien derrière.
Moi, j'avais demandé à ce que les jeunes cuisiniers, les jeunes cuisinières qui apprennent ce métier, même s'ils ne le pratiquent pas, assistent à la mort des animaux. Parce que c'est fondamental. Quand on voit mourir un animal pour le manger, on ne gaspille pas, on respecte. Et on pourrait très très bien initier quand même les gens qui sont dans ce métier, plutôt que de leur apprendre à se faire livrer des cuisses de poulet ou de
par Amazon. Et qui va manger.
Je pense que c'est la réalité des choses. Parfois, ça fait réfléchir et c'est tout bête, mais quand vous avez vu tuer un lapin. Mais après, vous ne dites pas « je veux manger que le rable ». Vous avez envie de le sublimer, de le partager, de le respecter, de ne pas l'abîmer.
Donc, oui. Contrairement aux cuisines modernes, Alain, la cuisine bourgeoise et la cuisine traditionnelle, c'est une cuisine où on ne gâche pas, on utilise tout. Et c'est même parfois les épluchures. D'ailleurs, ça revient un peu à la mode. Il y a certains chefs qui mettent un point d'honneur à ne rien jeter. On en parlait avec Thibaut Spivak du restaurant Anona il n'y a pas longtemps. On parlait de Paul Bocuse en introduction. Moi, je me souviens d'une phrase que je l'avais entendu dire et qui m'avait marqué. C'est que la grande cuisine, c'est le mélange entre la simplicité et l'excellence. C'est un équilibre entre la simplicité et l'excellence. Et d'ailleurs, quand Paul Bocuse avait deux étoiles, à l'époque, on mangeait encore sur des tables, des nappes en papier, et les toilettes étaient dans la cour. Hein. Si je ne dis pas de bêtises, je parle sous la responsabilité d'un adulte tournier qui a beaucoup mieux connu Bocuse que moi, mais c'était une auberge, hein, à Colonge-au-Mont-d'Or, c'était une auberge, nappes en papier, on posait les plats sur la table, les toilettes étaient dans la cour, enfin voilà. Et c'est vrai que...
Et on mangeait bien.
Voilà, aujourd'hui on met plus d'argent dans les toilettes que dans l'assiette en fait, c'est ça le problème.
Et Paul disait toujours, on lui posait tout le temps la question, je suis participé avec Eurotalk, avec des tas de choses, plein de rencontres avec des jeunes, et il y avait toujours soit de la presse, soit des jeunes qui lui demandaient, Monsieur Bocuse, qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui veut faire de la cuisine et réussir et tout. Et il disait, la cuisine, c'est très simple, c'est un métier qui s'apprend. Quand vous connaissez, que vous avez fait vraiment une bonne formation, après, c'est très simple, pour réussir, il suffit de sortir de l'ordinaire.
Oui, l'ordinaire.
Il faut faire de la cuisine qui sort de l'ordinaire.
Ah oui, oui. Parce que il y a l'ordinaire aussi, dans le langage militaire, l'ordinaire, c'est le rata de tous les jours. Hein.
Oui.
À ne pas confondre avec le mess, où on mangeait un petit peu mieux.
Absolument,
on allait manger à l'ordinaire.
Voilà.
Sauf quand le cuisinier n'était pas satisfait. Parce que moi, j'en ai tellement bavé chez les Marsouins qu'il m'est arrivé que des teigneux, des sauvages qui me commandaient, parfois je les donnais un coup de main au mess, et je peux vous dire que moi, j'aurais pas mangé ce qu'on leur servait. Parce que je me vengeais un peu.
Ouais. Classique. On sale, par exemple. Bien, on parle de la cuisine bourgeoise, il y a des dossiers, donc là c'est bon, il y a prescription. Avec nos invités ce matin jusqu'à 13h, c'est Dessus de Table sur Beurre FM.
Dessus de Table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de Table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Et on parle de la cuisine bourgeoise, Manu, aujourd'hui, la cuisine bourgeoise qui est de nouveau à la mode et de retour, hein, qui avait été condamnée par tous les nutritionnistes, hein, vous l'avez dit tout à l'heure,
les nutritionnistes,
en beurre, en œufs, et finalement, on n'a jamais été aussi gros.
Depuis
qu'on veut nous faire manger des légumes.
Oui, parce que le problème, il vient plus de la malbouffe et de la junk food qu'on trouve dans certains établissements que je ne citerai pas. Mais la cuisine bourgeoise, c'est finalement une cuisine qui est assez équilibrée parce que c'est une cuisine dans laquelle il y a beaucoup de légumes. Enfin, je veux dire, c'est une cuisine qui est très variée. Hein. Quand on vous parle aujourd'hui de manger 7 fruits et légumes par jour, quand on parlait du pot-au-feu, Alain du Tournier parlait du pot-au-feu. Dans le pot-au-feu, hein, les légumes, il y en a. Hein, dans la potée aussi, il y a tout un tas de plats emblématiques comme ça. Puis surtout, c'était des repas où on faisait une entrée. Enfin, c'était même un peu plus long que ça. Hein, il y avait les entrées, les hors-d'œuvre, les plats, les desserts, les entremets quand vous aviez mangé. Puis vous n'étiez pas obligé de manger des quantités incroyables puisque c'était servi en plat. Vous vous serviez juste selon votre appétit. Mais comme le repas était long et varié, ça permettait effectivement d'avoir une alimentation variée elle aussi.
Ça permettait d'utiliser ce qu'on appelle les bas morceaux, ça permettait d'utiliser toutes les parties des légumes. Je prends un exemple, on mange des radis à la croque au sel, mais les fans de radis, c'est très bon cuisiné.
En soupe, par exemple, aussi.
Donc, tout servait. Et c'est pour moi, quelque part, un respect de la nature de ne pas jeter. Ce qui m'ennuie le plus, c'est de voir jeter. On n'a pas, dans les villes, on n'a pas de poules, on n'a pas d'animaux pour leur donner. Oui. Et je trouve gaspiller, quand on voit les gens, si on veut manger une salade frisée, par exemple, souvent la salade frisée, on dirait vraiment un chapeau mexicain, tellement ils l'ont faite grosse, et on a envie de manger que le cœur, qui est tendre et légèrement amer. Et tout le reste, qu'est-ce qu'on fait ? Poubelle. Et pour moi, je comprends pas, quoi. Avec ça, on peut faire vraiment toutes ces feuilles, même si elles sont vertes, eh bien, on peut les cuisiner et les travailler et pas jeter tout, quoi.
Qu'est-ce qui a ringardisé la cuisine bourgeoise à une époque ?
Bah, c'est un peu le il y a toujours un espèce de jeunisme, on veut toujours être dans l'air du temps, etc. Bon, c'est vrai que il y a eu plusieurs vagues. Bah, alors, par exemple, dans les années 70, il y avait le guide Goemio, hein,
la nouvelle cuisine,
la fameuse nouvelle cuisine.
Oui. Qui a amené beaucoup de belles choses.
Oui, la nouvelle cuisine, en fait, c'était simplement de dépoussiérer la cuisine bourgeoise, la cuisine traditionnelle, mais sans vouloir la tuer. Donc là, la démarche, elle était honorable. Le fait, c'était effectivement l'objectif, c'était un petit peu de l'alléger, de la moderniser, bon,
de s'adapter à l'époque.
Voilà.
Parce qu'on mangeait une sole cuite, une sole meunière, rose à l'arête. Mais rose à l'arête, ça voulait dire qu'on avait des soles relativement fraîches, qui n'avaient rien à voir avec les soles qu'il y a eu à l'époque d'Escoffier, qui avait fait X jours pour arriver jusqu'à une table, qu'il fallait surcuire. Donc on a pu commencer à travailler sur des cuissons, notamment sur la pêche, on a pu travailler sur des cuissons beaucoup plus courtes, parce qu'on avait, je sais pas, je me souviens, moi, à mes débuts, des joues de lotte ultra fraîches. Si vous prenez une joue de lotte qui a traîné, ça sent l'ammoniaque. Hein,
ça passe vite.
C'est pas possible. Donc on avait cette chance. C'est la rapidité du transport, le frigorifique, et on vivait cette évolution pour tous les produits, des lieux pour faire maturer de la viande, tout était déjà en pleine effervescence, donc ça a permis d'engendrer plein de nouvelles façons de manger.
D'ailleurs, je crois que vous avez été un des premiers, Alain Dutournier, à faire maturer vos viandes vous-même, il me semble, hein, dans votre restaurant au Carré des Feuillants, j'ai bonne mémoire. Fin 80, déjà, vous aviez
des... J'ai fait une petite chambre de mûrisserie à viande pour travailler du bœuf de chez moi, du bœuf de Chalosse, et pour que la viande soit attendrie pendant un mois, j'aime bien 5 semaines, c'est un maximum.
Vous parliez tout à l'heure de la blanquette de veau. Alors aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on ne mange plus de blanquette de veau ? C'est parce que les gens n'aiment plus ça ? Ou c'est parce que les cuisiniers n'en font plus ?
Je pense que les cuisiniers pourraient très bien en faire, mais il faudrait respecter, toujours pareil, des fondamentaux, parce qu'une blanquette de veau, ça doit être moelleux, il faut travailler de la viande qui est bien précise, qui vient de l'épaule. Dans l'épaule de veau, on trouve des morceaux qui, à la cuisson, sont gélatineux, et après... Il faut jamais cuire au-dessus de 70 degrés. Il faut cuire doucement une blanquette parce que sinon, les collagènes foutent le camp de la viande et vous avez de la viande
sèche,
bouillie. Oui. Elle sèche, elle est bouillie alors qu'elle doit être onctueuse et moelleuse. Mmh. Et si vous avez en plus un veau de bonne origine et que vous mettez aussi un peu de très bonne crème, ça devient puis des champignons qui sont faits comme il faut, des champignons de Paris, hein. Des petits oignons, c'est quelque chose qui devient grandiose.
Alors vous, Thomas Boutin, au Vieux Crapaud, rue Lauriston, c'est un plat qui revient régulièrement à votre carte, la blanquette de veau.
Bah, tous les plats traditionnels, en fait, c'est vrai que le pot-au-feu, la blanquette de veau, je sais pas, le chou farci, les choses comme ça, effectivement, c'est des choses que j'aime beaucoup travailler, et notamment parce que je pense que c'est très difficile que les gens, si vous voulez, vraiment se rappellent justement d'un pot-au-feu ou d'une blanquette, parce qu'en général, c'est difficile. Je pense que les choses simples, qui sont loin d'être simples du coup, parce que ça ne supporte pas du tout la médiocrité. Hein. Et il oui. faut que ça soit fait vraiment en excellence, avec un assaisonnement parfait, avec une cuisson, comme le disait Alain, cuisson douce. Et comme, par exemple, moi, tous mes plats en sauce, sur le pot-au-feu et tout, je cuis toujours ma viande au four, toujours à couvert, au four, dans un grand rondeau, parce que je trouve que c'est une cuisson qui est beaucoup plus homogène que de faire bouillir, par exemple, sur le gaz. Et puis on contrôle mieux, effectivement, la température de cuisson.
Est-ce que la cuisine minute, qui est un peu la règle aujourd'hui, elle permet justement de masquer certaines imperfections? Est-ce que du coup la cuisine qui prend du temps, elle, où justement tous les goûts se mélangent, les saveurs exhalent, est-ce que celle-là justement elle permet pas elle n'autorise pas la médiocrité?
Écoutez, ça n'autorise pas du tout la médiocrité, puisque c'est vraiment, de toute façon, je pense qu'Alain sera d'accord avec moi, la cuisine, c'est vraiment une succession de tout petits détails, en fait. C'est comment on va colorer la viande, c'est comment, avec quoi on va le mouiller, avec quel vin on va prendre, quel légume, peut-être mettre un tout petit peu de céleri dans un truc, ou peut-être il n'y en a pas tout à fait, mais ça va rafraîchir un peu le plat. C'est que des petites choses. Et puis après, il y a la manière aussi dont on le sert, dont on le remet dans l'assiette, dont on le réchauffe. Donc c'est une multitude de tout petits détails qui font qu'effectivement, un pot-au-feu, il sera formidable et les gens vont s'en souvenir. Je dirais s'ils viennent chez moi, sans prétention, mais c'est vrai. alors que, quand vous allez, par exemple, dans les brasseries, aujourd'hui, les brasseries sont quand même plus que c'était comme avant. Avant, c'était quand même vraiment des restaurants où on mangeait justement des vraies bonnes choses traditionnelles et tout ça. Et aujourd'hui, la brasserie, y en a beaucoup. Ils sortent les sacs sous vide, qui n'ont pas cuit eux-mêmes, hein, bien sûr. Et puis, il n'y a plus tout homogène. Il n'y a pas, enfin voilà, il n'y a rien.
Maintenant, dans les brasseries, il y a deux genres de plongeurs. Il y a ceux qui font la plonge et ceux qui plongent les sachets, c'est ça.
Il y a quelque chose qui a été reconnu par l'administration française. C'est le CAP de cuisinier assembleur. Et là, je pense que c'est un fléau.
Ah oui, je ne connaissais pas ça. Alors ça.
Il y a le titre de cuisinier assembleur.
Alors, mais justement, puisque vous parlez des écoles hôtelières et du CAP, Alain, une question collective à tous les deux. Hein. Plus on voit le programme du CAP, parce que quand on passe son CAP, il y a un certain nombre de plats, des fiches techniques qu'on doit connaître par cœur. Et quand on voit évoluer les plats qui sont au programme de CAP, il y a des plats emblématiques de la cuisine bourgeoise ou classique qui disparaissent au profit d'autres plats plus modernes. Est-ce que c'est pas une erreur? Est-ce que justement, on ne doit pas enseigner la cuisine classique, parce que la connaissance et la maîtrise de cette cuisine classique, y compris au niveau technique, elle permet de faire n'importe quelle cuisine derrière.
Bon, je pense que c'est comme dans tout artisanat, je pense que c'est au même titre, si on n'apprend pas le solfège, c'est possible, mais après pour composer des musiques, ça doit être plus difficile. Donc si on connaît un peu notre solfège au travers de ce qu'on a appris, moi notre ami vient de l'école Ferrandi, moi j'ai fait l'école hôtelière de Toulouse.
Oui, il était dans votre promotion d'ailleurs, oui. J'étais le parrain de sa promotion.
Je suis très honoré. mais c'est vraiment des époques où on a appris les valeurs, les fondamentaux de ce métier. Si on n'apprend pas pour le CAP comment faire un potage ou des potages, comment faire, je vais plus loin, ce qui est catastrophique parce que je l'ai vécu avec les champions, des meilleurs élèves. Il y avait une émission de télé qui allait dans 5 maisons et on avait un concours à leur faire, c'est pas vieux, hein, et notamment avec un prof de Ferrandi que j'aime beaucoup. Et j'avais fait une épreuve toute simple, c'était des master chef, comme on dit maintenant, qui m'appelait, une fille, elle m'appelait coach. Je lui ai dit non, je m'appelle pas coach moi. Mais donc ils étaient 5. Je les ai eus pendant 3 jours. Ils sont allés, ils étaient aussi chez Ducasse à Monaco, ils étaient chez Georges Blanc. Enfin, il y a eu une émission de fête là-dessus. Et moi, je leur ai posé un truc tout simple, puisqu'il fallait faire une épreuve. J'ai fourni 5 poêles Tefal, 5 poêles en tôle bien prêtes pour que ce soit lisse. J'ai fourni des bottes d'herbe fraîches, impeccables, nettoyées, et j'aurais fourni des œufs de ferme. Je leur ai donné, vous avez du sel, du poivre, si vous aimez le beurre, si vous mettez du beurre, de l'huile d'olive, à vous de jouer, et faites-nous chacun une omelette pour une personne. Et ça a été une catastrophe. On a tout vu. Il y a un petit malin qui a mis un peu de blanc d'œuf battu parce qu'il avait entendu l'histoire de la mère Foulard,
oui.
Ça ressemblait à une espèce de
crêpe. Un soufflé à l'œuf.
Les autres, oui, ne savaient pas rouler une crêpe, ne savaient pas.
Rouler une omelette.
Oui, parce que l'omelette, elle est pas colorée. La vraie omelette, elle est roulée.
Elle doit avoir de riz, elle roulée. Et donc, alors, ils me disent, c'est vrai qu'ils ont constaté qu'ils ne savaient pas faire d'omelette. Ils étaient en quatrième année ou je ne sais plus combien. Et donc, ils me disent, mais vous, chef, vous pourriez nous montrer une omelette? Alors, je dis oui. Et je me suis fait bander les yeux et j'aurais fait une omelette. Et sans utiliser de fourchette, en tournant et en faisant
ouais, et un petit claque sur la
main, j'ai retourné. Et alors c'était pire que si j'avais inventé, je sais pas, le dernier objet rarissime pour eux. C'était mais c'est fascinant. Je dis non, j'en ai fait des centaines.
C'est la base.
Et d'ailleurs, c'est la base. Ouais. Alors d'ailleurs, est-ce que c'est vérité ou légende? On dit qu'à une époque. Révolue, quand on embauchait un chef dans une maison bourgeoise,
ça, oui.
Ouais, ou dans un restaurant, on lui faisait faire des œufs au plat ou une omelette.
Mais c'est pour moi un cuisinier qui sait faire un potage cultivateur et une omelette, j'ai envie de travailler avec lui parce que je sais que ce jeune, si c'est bien assaisonné, si l'omelette elle est pas crue, parce que on parle de cuisinier, pas de cuisinier, parce qu'il y a beaucoup de cuisiniers actuellement.
Oui, c'est vrai.
Donc, si c'est cuit comme il faut, moelleux au milieu, on appelle baveux, mais ça ne doit pas être cru. Hein,
ça doit être onctueux, c'est ça, hein,
si
quand on dit baveux.
Si c'est onctueux, je me suis amusé cette semaine là, pour montrer à mes troupes, là, on a eu des premières asperges vertes de Provence, donc moi j'aime pas l'asperge cuite à l'eau, donc j'émince les asperges comme on fait chez moi, et je les fais poêler. Et
oui, chez vous, c'est en Gascogne, hein, ouais. Ça s'entend à l'accent.
Et avec des œufs battus à la fourchette, parce qu'un œuf battu au fouet, ça ne fait pas une bonne omelette. Et donc, battu à la fourchette, sel, poivre, j'ai fait une omelette aux asperges, et j'ai fait manger ça, j'ai un ami qui a mangé ça, qui travaille pour notre métier, qui est un communicant, il me dit, mais je savais pas qu'une omelette, ça pouvait être bon comme ça.
Bah oui, non, mais
et simple.
C'est bon, finalement, et simple, oui.
Simple, et c'est très difficile, justement.
Mais c'est ça, l'excellence, quand on parle d'excellence dans la simplicité, c'est encore plus dur, effectivement.
Tout ce qui est simple demande un travail énorme en amont, une formation. C'est normal, c'est la vie, c'est comme ça. Tout ce qu'on aime, qui vous regardez une peinture qui est très pure, qui est très belle, mais ça représente quand Dali fait une montre qui fond, il a dû faire des dessins de la peinture pendant toute une vie avant de dessiner cette montre qui fond. Et c'est comme ça. C'est...
Allez, on parle de cuisine bourgeoise aujourd'hui avec Alain Dutournier et Thomas Boutin. Si vous avez des questions à poser, que vous voulez intervenir, hein, 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Ça donne faim, la cuisine bourgeoise. Et on en parle aujourd'hui avec nos deux invités, Manu.
Absolument, Alain Dutournier, chef étoilé, multi-étoilé hein, tout au long de sa carrière, même si le Michelin lui fait des misères un petit peu depuis l'année dernière. Et puis Thomas Boutin, le vieux crapaud.
Moi, je ne suis pas embêté par le Michelin, ils ne sont jamais venus. Et franchement, ça me dit chaque fois parce que bon. j'ai pas connu ça. Mais je pense que, enfin, pour moi, le plus important, c'est qu'il y ait des clients dans mon restaurant.
Après. Voilà, ce qui ne vous empêche pas, justement, j'allais le dire, d'être plein tout le temps. Alors que. Qu'est-ce que les gens... plein de clients.
Ça dépend
de
l'heure.
Ça, c'est un humour de cuisinière.
Oui, oui, absolument. Humour potage de cuistot. Alors, justement, qu'est-ce que les cuisiniers viennent trouver dans un restaurant comme le vieux crapaud? Parce qu'on pourrait se dire... Bon,
les clients viennent trouver dans un restaurant comme le
vieux crapaud, parce qu'on pourrait se dire c'est un nom qui n'est pas très engageant. Pourtant, chez vous, il y a du monde tout le temps. Hein, je suis déjà venu. Et puis on mange des choses. Souvent les gens disent bah comment des cuisses de grenouille ou alors chez vous de la grenouille entière. Vous nous direz pourquoi la grenouille entière ou du riz de veau qui sont des choses qui sont pas très. C'est très bon le riz de veau. Moi j'adore ça, mais c'est vrai que ça.
Il faut que ce soit bien préparé.
Ben voilà, ça c'est très, très important. Qu'est-ce qu'on vient chercher dans un restaurant comme le Trou Gascon, le vieux crapaud.
Je pense qu'on vient chercher de l'authenticité déjà. Comme je disais tout à l'heure, le souci du détail, de la convivialité. Et puis, moi j'aime bien dire chez moi que les gens. J'aime les inviter à faire une expérience. C'est-à-dire que je vais essayer de leur faire manger tout ce qu'ils n'aiment pas, en fait. Parce qu'avant de devenir cuisinier, il y avait plein de choses que j'aimais pas, comme, bah, comme les abats, comme les riz de veau, comme les rognons, comme les oreilles de cochon, comme... Enfin, je peux vous en citer la tête de veau, par exemple, à la traditionnelle et tout.
Ah, ça, c'est bon, la tête.
Eh ben, moi, par exemple, je n'aime pas ça du tout, ce côté gluant gélatineux. Enfin, je comprends tout à fait, hein. Mais moi, en devenant cuisinier, je me suis dit, bah, je vais cuisiner les choses que j'aime pas pour pouvoir les aimer, pour essayer de les faire aimer aux gens et d'essayer de leur faire changer d'avis. Et comme chez moi, par exemple, les gens ne choisissent pas la cuisson de leur viande. Ils sont obligés de manger leur viande rouge comme moi je veux, c'est-à-dire bleue. Bien poêlé, bien chaud.
Bleu mais chaude, j'espère. Bien,
évidemment, cette question, quand un de mes clients me la sort, j'ai vraiment envie de m'énerver. Et du coup, en fait, eh ben, je leur dis, par contre, ça ne vous convient pas comme la côte de bœuf, je vous la recuirai et tout, mais d'abord, goûtez comme ça, faites-moi confiance. Ouais. Et ben, je peux vous assurer que tous les gens qui, justement, me font confiance à goûter une cuisson qu'ils n'avaient pas, eh ben, il y en a à peu près 40% qui sont ravis, hein, parce que ça faisait des années qu'ils étaient habitués à manger la viande à point ou bien cuit, et là ils redécouvrent, eh ben, justement, que la viande bleue, chaude, c'est absolument délicieux.
Hein. Bon, vous l'avez compris, Philippe, au vieux crapaud, vous êtes obligé d'être content.
Ah non, vous êtes obligé d'être content.
Non. Mais je vous taquine. Non, mais c'est vrai. Non, mais moi, je suis pas contre la démarche, effectivement, de dire aux gens, ça doit se manger comme ça, essayez.
Oui, mais il faut comprendre aussi que les gens, moi-même, je suis client de brasserie, de restaurant, je sors pas beaucoup, mais ça m'arrive, et je dois dire que ça devient actuellement, compte tenu des cuisines ou des cuisiniers qui n'ont pas d'expertise de cuisson des viandes,
manger
une côte de bœuf, c'est 9 fois sur 10, c'est... Moi, j'aime bien manger un très beau saignant, mais j'adore quand c'est bien fait, mais 9 fois sur 10, la viande, elle est, on appelle cornée, c'est-à-dire elle est cuite au dernier moment violemment, elle est cornée, et dedans, elle est gluante et froide. Eh bien, une côte de bœuf gluante et froide, même du meilleur bœuf, moi, je n'ai pas envie de la manger. Et 9 fois sur 10, on me sert ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On arrive maintenant avec des amis, on demande la viande à point, une côte de bœuf, parce que sinon, le gentil japonais qui la cuit, il n'a aucune notion de la cuisson des viandes, et il va nous servir un truc,
tataki, oui, parce que les viandes, on saisit à haute température, mais après, on baisse le feu.
Et puis on la repose surtout beaucoup, on la laisse reposer.
Et puis une viande ne doit pas être cuite, une viande rouge ne doit pas être cuite violemment. C'est ça le problème, c'est que les gens qui vont faire des barbecues, c'est pas des barbecues, c'est
des incinérateurs.
Voilà, c'est ça flambe, il y a des flammes.
C'est le crématorium.
Alors que moi j'ai appris à travailler les braises et à cuire en rôtisserie et en grillade des braises, avec les braises mourantes, les braises vives, et on les déplace pour pouvoir cuire lentement en fonction de la pièce que l'on est en train de griller. Une grillade, ça ne doit pas être boucané, ça doit être au contraire très élégant, une grillade, mais il n'y a presque plus personne qui sait griller. Il faut réapprendre le métier.
Mais ça, vous dites, je l'ai appris, c'est ce que vous avez appris à l'école hôtelière de Toulouse.
Oui, mais moi j'ai été grillardin à la Société des Bains de Mer à Monaco, donc j'ai passé des heures devant des braises.
Vous en avez grillé de la barbaque, Alain.
Même des poussins, des petits poulets, des tas de trucs grillés, comme ça, c'était délicieux, mais pas brûlés.
Alors, on parlait des grenouilles, des riz de veau chez Thomas Boutin.
Moi, je veux les grenouilles. Je veux savoir pourquoi dans les grenouilles, on mange que les cuisses, et qu'est-ce que vous faites du reste?
Voilà, et après, Thomas, vous nous direz, Alain, quelles sont vos spécialités à vous.
Je pense que, justement, chez moi, déjà, on ne mange pas que les cuisses. C'est ce qu'on appelle, en fait, quand vous avez les cuisses qui sont jointes par la vertèbre et que vous n'avez pas le haut du corps, on appelle ça la coupe à la parisienne. Et la coupe à la lyonnaise, donc, c'est la grenouille entière, sans la tête, sans les viscères. Donc, moi, je la passe dans la farine, légèrement, et ensuite, huile et beurre, bien mousseux. Bien coloré, et puis persillade, c'est-à-dire échalote, ail et persil, un petit jus de citron à la fin quand même pour alléger entre guillemets un peu, hein. et tout se mange. Franchement, on vous met un bavoir quand vous venez chez moi, on vous donne un rince-doigt et on vous dit mettez les doigts, déjà c'est bien meilleur avec les doigts, et on suce tous les petits doigts.
Et puis c'est pas n'importe quelle grenouille chez vous, elle vient de chez Patrice François, je crois,
qui est le seul éleveur en France qui se trouve à Pierre-Latte, et qui me permet d'avoir des fraîches et françaises à peu près toute l'année. On a de temps en temps une petite période de carence, fin janvier, début février, c'est-à-dire là maintenant, parce qu'elles ne se reproduisent plus, il fait trop froid, mais sinon, effectivement.
Alors, et vous, vos spécialités, Alain?
Non, mais Thomas, c'est bien parce qu'il y croit.
Oui. De quoi attendez, expliquez-nous.
Non, mais à ces grenouilles, il y croit.
Ah oui, d'accord.
C'est l'humour de cuisinier. Alors, Manu,
ah, oui, non, il y
c'est
croit.
L'effet qui se coule. Elle est bien, celle-là.
Désolé.
Et Alors, il y a beaucoup de gens qui parlent de grenouilles, mais qui n'en ont jamais mangé, en fait. La plupart des Français n'en ont jamais mangé, même pas une fois.
Bah, t'as pu pourrir quelque chose, mais après, c'est...
Parce que nous, on est dans le monde entier, on a l'image d'un peuple qui mange des cuisses de grenouilles.
Les Anglais qui nous ont occupés pendant 3 siècles en Aquitaine, qui nous ont piqué tout, puisque 55% du vocabulaire anglais est d'origine occitane, d'origine gasconne. Et les Anglais nous ont surnommés, parce qu'ils ont vu que chez nous on mangeait les grenouilles,
les froggies.
Ouais. Et après, ça a été véhiculé dans le monde entier. Tous les pays anglo-saxons disent les froggies en parlant des Français.
Et après, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi, quand vous prenez, enfin, il y a grenouilles et grenouilles, hein, quand vous prenez des grenouilles qui sont abattues dans des conditions déplorables en Asie, qui sont gros comme des cuisses de poulet ou des pilons, qui sont congelés, on ne sait pas dans quel ça sent la vase. Et... Ah oui, c'est après, si on goûte des grenouilles comme ça, c'est ouais, sûr qu'on a pas envie.
C'est plutôt des crapauds, mais vous, le crapaud, il est que sur l'enseigne, voilà. Hein, c'est ça. Hein.
Ouais, moi, en fait, ça s'appelle le vieux crapaud, parce que justement, j'ai goûté mes premières grenouilles quand j'avais 4 ans avec ma grand-mère. Je tombais amoureux des grenouilles, et je lui ai dit, c'est trop bon, un jour, j'ai un restaurant, mangerai des grenouilles, et j'appellerai le vieux crapaud. Alors, je savais pas que j'allais me destiner à ça, mais quand, justement, j'ai ouvert mon restaurant, ben voilà, j'ai trouvé que c'était un bon nom, en tout cas, et puis pour retenir.
Alors, on mange les grenouilles, mais pas les crapauds?
Non, pas les crapauds. Pas chez moi, en tout cas.
D'accord.
En Asie, oui.
Ah, ça,
j'ai. Et aux États-Unis.
D'accord.
Puis les crapauds sont très utiles dans la nature. Les grenouilles prolifèrent, mais les gros crapauds font un boulot terrible pour enlever les moustiques et tout. Je peux vous dire que moi, chez moi, les crapauds près du ruisseau, on les laisse. Hein.
Alors Mana, le champion du monde de la pizza, nous a rejoint au 01 53 48 3000. Mana, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour. Bonjour à tes invités. Et bonjour au chef du tournier.
Bonjour, madame. En
fait, j'appelle pour une petite chose. Déjà pour remercier les chefs par rapport à ce qu'ils font, à leur gastronomie extra. Et surtout au chef du tournier, car je suis venu chez lui donc il y a quelques mois manger chez eux. Je ne sais pas s'il va se souvenir de moi, mais normalement oui, parce qu'il m'a dédicacé un livre. Et je suis en fauteuil roulant, en fait, et je fais des pizzas, chef du tournier. Je
sais pas si oui, bien sûr.
Et Mana qui est un fidèle de l'émission. Hein.
Oui.
Voilà, et je surtout pour te remercier de m'avoir dédicacé ce livre. D'ailleurs, on a très bien mangé chez toi.
Mais alors, qu'est-ce que vous avez mangé, Mana? Racontez-nous petit peu votre expérience.
Ouais, mais honnêtement, c'était tellement bon. Je suis incapable. Je sais que j'ai retenu le feuilleté avec de la mozzarella d'une couleur très sympathique. D'ailleurs, j'ai demandé la recette que j'ai pas retrouvée. Bon, malheureusement, j'arriverai pas à la refaire.
Alors, secret de cuisinier.
On avait mangé, il y avait du pigeon aussi ce jour-là.
Oui, mais on change souvent les...
Excellent dessert qu'on avait dégusté, qui était très très bon aussi. Et par contre, l'entrée, j'attends toujours la recette pour pouvoir essayer de la réaliser un jour.
Bon. Feuilleté mozzarella, bon, voilà.
simple et efficace.
Simple et efficace, exactement. En tout cas, merci au chef et merci à toi, Philippe. Et si tu veux
faire une question
sur l'handicap, je suis là.
Ok, à bientôt, Mana. Amitié, merci.
Mana.
Qu'est-ce qu'il a, ce feuilleté de particulier, chef du tournier?
C'était une entrée où on avait fait un feuilletage avec de la mozzarella, avec du poivron et de l'anguille fumée. Bon, c'était un truc un peu...
Sympa, ça donne envie. Mais alors moi, il y a un plat chez Alain du Tournier.
C'est des strates.
Il y a une entrée chez Alain du Tournier depuis les années 80. C'est mon hit, moi, au Carré des Feuillants. C'est le velouté de châtaigne au blanc de poule faisane et avec de la truffe blanche d'Alba. Ça, c'est un truc, c'est un monument de la cuisine que j'aime énormément. Et puis chez Thomas, les viandes sont toujours excellentes.
On fait beaucoup de gibier aussi.
Oui, en saison. Ouais. Bah, d'ailleurs, là,
qu'est-ce que vous faites comme gibier, par exemple?
Alors moi, je suis principalement du gibier à poil, parce qu'on est une petite structure et une petite équipe en cuisine. Donc, gibier à plumes, comme j'aime bien, j'aime bien recevoir mon produit.
Acheter brut. Les bêtes entières, oui.
Voilà, je n'en cuisine pas beaucoup, parce que ça demande quand même beaucoup de temps. Et je cuisine beaucoup de gros gibier, c'est-à-dire du sanglier, du chevreuil, tous les cervidés. Hein. Et je les cuisine aussi... principalement aussi bleu et chaud. Et puis, j'ai séparé...
Là, moi, j'ai un peu plus de mal, quand même. Le gibier...
mais je pense que, justement... Ça
surtout sur le pigeon. Il y a une mode de servir le pigeon rosé. Moi, je peux pas.
Pigeon gluant.
Moi, je pense que ça serait peut-être une bonne occasion pour que je vous invite tous les trois. Et puis, comme ça, je pourrais vous faire goûter du...
À vos bavoirs.
Du gibier bleu.
Son fameux tartare de lièvre à la royale.
Non, mais je vous assure, c'est pareil... c'est une viande qui est très fine, c'est merveilleux, avec une petite embourrée de chou, avec des lentilles, enfin c'est vraiment...
Quelle viande ?
Le chevreuil, par exemple. Ah, le chevreuil, faon, c'est merveilleux, le faon.
Ouais, chevreuil rosé, ça peut...
Le sanglier, non. Moi, je
parle vraiment de la viande rouge, donc le sanglier,
non,
moi...
Non, mais moi, j'ai un problème qui est fréquent actuellement, je sais pas ce qui se passe. Autrefois, les gens castraient les porcs. Il y avait des castreurs, qui les ongreurs, qui passaient de ferme en ferme pour castrer les porcs. Et actuellement, c'est fait électroniquement, je pense, et il arrive fréquemment qu'en France, mais alors c'est pire en Espagne, mais vous avez de la viande, beaucoup de gens n'y font pas attention. Moi, je peux pas. Dès que je sens, même en mettant dans le four, on fait du charnu de porc fermier tous les lundis. C'est une tradition chez nous pour l'équipe, mais si la porte du four s'ouvre, je sens à 5 mètres, c'est une bête mal castrée. Et j'ai ce problème avec les sangliers vieux, parce qu'ils ne sont pas castrés, et il y a une odeur ammoniacale qui rappelle, c'est l'urine, quoi.
Ouais.
Et le porc, mais même un jambon, un merveilleux jambon de rabougaud ou comme ça, parfois je ne peux pas y toucher, parce que moi je sens, c'est... Je suis maniaque là-dessus.
Vous avez du pif.
Mal castré.
Ouais. C'est pareil, moi, les sangliers, bon, je chasse, donc je choisis aussi mes sangliers. Donc, moi, plutôt des sangliers de 50-60 kilos, hein, oui. Qui sont quand même...
On leur a coupé les attributs.
Exactement, une fois dès qu'ils ont été tués.
Bien, j'ai entendu embeurrer de chou.
En beurre de chou, ça donne
la
faim.
On reste tout.
De toute façon, à chaque fois qu'on fait, c'est lié aussi à l'heure de l'émission, mais à chaque fois qu'on termine cette émission, en général, on est affamé. On va peut-être rappeler, Philippe, les adresses des restaurants de nos invités. Donc, Alain Dutournier, au Carré des Feuillants, 14 rue de Castiglione, à Paris 1er. Également au Trou Gascon, 40 rue Taines, à Paris 12e. Et puis, les caves de Marly, là, on n'y mange pas, mais on y voit bien, c'est à Port-Marly. Et puis, Thomas Boutin, le vieux crapaud, 19 rue Lauriston. 16 rue Lauriston. C'est pour ça qu'il faut que je mette mes lunettes quand je lis. Il ne faut pas que je fasse le jeune. 16 rue Lauriston, à Paris 16e. Ça fait 2 x 16, comme ça on est sûr de ne pas se tromper. 16 rue Lauriston, Paris 16e. Des endroits où on mange très bien. Qui sont des hommages à la cuisine bourgeoise et à la cuisine traditionnelle, mais avec une vraie veine gastronomique.
Voilà, merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à tous les deux d'être venus. Vous réécoutez l'émission sur beurrefm.net. Les podcasts sont à votre disposition. C'est le week-end, ce week-end du Maghreb du Livre. Donc, on vous donne rendez-vous sur place à la mairie de Paris. Manu.
Oui, j'oubliais. Demain à 13h15 sur France 2, Laurent Delahousse présentera une émission inédite de 45 minutes intitulée Bernard Loiseau, l'étoile filante. C'est un reportage que j'ai eu l'occasion de voir en preview, qui est très bien fait pour une fois, parce que c'est pas toujours très bien fait, hein, les reportages sur la cuisine. Donc je vous le recommande demain à 13h15 sur France 2.
Passez un très bon week-end sur BeurrefM.
Retrouvez Dessus de Table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli BeurrefM.